Radio Okapi.
Construction du port en eau profonde de Banana. Signature hier à Kinshasa de la convention de collaboration entre le gouvernement congolais et la société Emirati DP World. Coût des travaux, 1,3 milliard de dollars. Plus de 30 otages congolais libérés et 34 terroristes et ADF capturés. C'est le bilan préliminaire des frappes aériennes et de l'artillerie du 30 novembre dernier. Frappes menées par l'armée congolaise et ougandaise. Bilan présenté dans un communiqué de presse publié ce week-end. Et puis, clôture vendredi à Uvira au Sud Kivu des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. À cette occasion, la chef du parquet près le tribunal de paix d'Uvira a sensibilisé les femmes à connaître leurs droits. Christine Kachifou est notre invitée ce matin. Madame, Messieurs, bonjour. Le gouvernement congolais et la société Emirati DP World ont signé hier devant le chef de l'État la convention de collaboration pour la construction du port en eau profonde de Banana. Il s'agit d'un investissement estimé à 1,3 milliard de dollars qui devra démarrer selon la volonté du président de la République en début de l'année 2022 en tenant compte des dispositions légales et techniques pour l'acheminement des matériaux. Cette signature intervient après un réajustement de cette convention tel que voulu par Félix-Antoine Tshisekedi en mai dernier. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
Le réajustement a consisté en une réconsidération des intérêts de chaque partie au contrat en rééquilibrant leurs avantages respectifs. Pour le chef de l'État, ce projet doit développer les capacités de la République démocratique du Congo en termes de commerce et logistique tout en accompagnant la croissance du pays et en jouant un rôle capital dans l'intégration régionale. Ce port va offrir au pays une ouverture sur la mer avec la capacité de recevoir des navires de plus grande capacité. Chérubin Okende, ministre congolais du Transport.
La construction d'un port en eau profonde à Banana est un grand atout pour notre pays car il nous permettra assurément d'accroître le volume des échanges commerciaux internationaux et ainsi doper davantage l'économie interne et nous permettre à ce que nous puissions nous présenter dans le rendez-vous de l'intégration africaine avec des atouts bien renouvelés et bien assumés de la République. Il nous permettra également de développer une zone industrielle et logistique et aussi la création conséquente des emplois en République démocratique du Congo.
D'après les estimations préliminaires de la firme DP World, les travaux de construction de ce port en eau profonde pourraient prendre 2 ans. La première phase de ce projet prévoit de construire un quai de 600 mètres carrés et de 25 hectares d'espace de stockage.
Justement, le député national Olive Moudékéré Zaré recommande au gouvernement congolais de s'épancher urgemment sur les investissements lourds, notamment la construction du port en eau profonde de Banana et le pont route rail Kinshasa-Brazzaville. Pour cet élu, la RDC devrait s'inspirer du modèle de la République unie de la Tanzanie pour déclencher son développement économique par la réhabilitation de ses infrastructures, du transport multimodal et autres de base. Il a déclaré samedi à Kinshasa lors d'un point de presse, cela après avoir pris part en début de ce mois de décembre à Dar es Salaam, la capitale tanzanienne, à la rencontre annuelle du corridor central regroupant le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et la RDC. Le député national Olive Moudékéréza, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Et la RDC peut tirer beaucoup de leçons. Et j'espère d'ailleurs que le Premier ministre qui va tirer le modèle de développement de la Tanzanie pour s'inspirer de cela en RDC. Ils ont des mines, mais le port de Dar es Salaam a permis à construire la Tanzanie. Il y a un grand changement. Il faut construire notre port à nos profondes de Banana. Et on réhabilite le port de Kalemi, le port de Kalundu. On construit l'aéroport de Kavumo. On construit l'aéroport à Beni. On fait des jonctions de ces 4 routes RN1, RN2, RN3, RN4. Après les ports, si on construit la route pour Raïs, Brazzaville, c'est une grande richesse. La RDC deviendra la locomotive. Nous sommes le seul pays qui a même un transport multimodal. Nous avons les transports maritimes, nous avons les ferroviaires, nous avons le terrestre, nous avons des aéroports, mais nous sommes les plus pauvres. Qu'est-ce qui est important maintenant pour nous, pour la RDC? Tous les bailleurs de fonds, Banque mondiale, BAD, NEPAD, toutes ces organisations veulent voir la région se développer. Il faut promouvoir la classe moyenne congolaise. Il faut créer une richesse nationale. Il faut élargir l'assiette fiscale. La nation s'est construit par ses filles et ses fils. Et nous avons tous les potentiels en RDC.
Dans le Grand Katanga, le transport sur l'axe routier Manono-Lubumbashi devient difficile. Ce tronçon connaît une dégradation sans précédent. Des dizaines de véhicules sont immobilisés de part et d'autre du village de Kyolo dans le territoire de Malimbankoulou. Conséquence, sur le marché de Manono, les prix des produits manufacturés ont grimpé. François-Xavier Mibé, reportage.
La dégradation de la route qui gêne les usagers est observée déjà au-delà de Manono Centre, à la hauteur du village de Malala jusqu'à Kyolo, en territoire des Malimbankoulou. Un tronçon d'au moins 100 km devenu aujourd'hui impraticable. Le coordonnateur de la société civile de Manono parle d'une situation difficile, contraignante, l'abbé Moïse Kilouba.
Présentement, comme les trous qui occupent les tronçons de Kyolo, Kapia jusqu'à Manono sont en train de se remplir d'eau. Les véhicules sont toujours bloqués de part et d'autre.
Les difficultés de transport sur l'axe routier Manono-Lubumbashi plonge la localité tout entière des Manono dans une asphyxie économique.
Il y a carence des produits manufacturés et même la hausse des prix. Le bas peuple a de la peine pour accéder à l'achat de sel, sucre, même le savon. Les verres de sel à 500-800.
Le tronçon routier en dégradation avancée a bénéficié plusieurs mois auparavant des travaux de réhabilitation en terre battue. Travaux entrepris par la société chinoise Crec 9. L'administrateur de territoire, Pierre Mukamba Kaseya, parle des difficultés des parcours.
Les Crec 9, nous attendons quand ils terminent Kipanda, Kifila, ils vont passer aussi terminer le tronçon jusqu'à Mpakiolo.
Kalemi, François Djabemi, Radio Kapi.
Je vous disais en titre, 31 otages congolais ont été libérés, 34 terroristes ADF capturés et 4 bivouacs ennemis détruits. C'est le bilan préliminaire des frappes aériennes et de l'artillerie du 30 novembre dernier que les armées de la RDC et de l'Ouganda présentent dans un communiqué de presse daté du 10 décembre 2021. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
Les FRDC et l'UPDF portent à la connaissance du public que depuis le lancement des opérations contre les terroristes ADF et leurs forces supplétives locales, la situation sécuritaire demeure calme sur le théâtre, indique le communiqué. En plus des opérations préliminaires en cours, les deux forces engagées se livrent présentement aux travaux de construction et de réhabilitation des routes pour faciliter et sécuriser davantage le mouvement des militaires et le déplacement de la population civile. C'est particulièrement sur les axes Mbau Kamangu et Nobili Kamango Semuliki Beni. En outre, poursuit le communiqué, en vue de fidéliser la population et combattre la propagande nocive distillée par les ADF et leurs alliés, les FRDC et l'UPDF ont lancé une vaste campagne de sensibilisation et installé des centres médicaux à Mukakati et Kakibombo dans le cadre des actions civilo-militaires qui portent déjà des fruits. L'UPDF et les FRDC précisent par ailleurs dans ce communiqué que dans la conduite des opérations, les unités respectent les droits de l'homme, le droit international humanitaire et les règles d'engagement.
Et puis, un militaire blessé au front, c'est dans sa nature normale de son métier. C'est le mot de réconfort du ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Il s'est adressé ainsi hier à plus de 80 militaires blessés au champ de bataille dans les opérations en Ituri et internés à l'hôpital général de référence de Bunia. Pour le ministre Kabanda, ces hommes et femmes ont donné leur peau pour défendre la nation contre les ennemis et méritent une prise en charge médicale et sociale correcte. Les propos du ministre Gilbert Kabanda, recueilli par Martial Kizabiamungu.
Les gouvernements feront tout pour que vos maladies, vos blessures soient correctement soignées. Être blessé pour un militaire, c'est dans sa nature normale de son métier. Si tu es un militaire et tu es blessé au cœur, il faut comprendre que c'est logique. Bien sûr que ce n'est pas bon, mais c'est logique. Si tu pars se battre et on te gifle, il faut savoir que c'est normal. Maintenant, le gifle est là, il faut que ça soit réparé par nous, les gouvernements, parce que c'est notre obligation. C'est pourquoi les médecins sont là avec vous, avec des produits pharmaceutiques pour vous soigner afin que vous recouvrez votre santé.
Notons que le ministre congolais de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a quitté Bunia hier pour Goma après 4 jours de mission de service au chef-lieu de l'Ituri, accompagné des parlementaires de l'Ituri et du Nord Kivu. Sans droit à la santé, on n'a pas le droit à l'épanouissement et à l'éducation. Déclaration du Conseil national de la couverture santé universelle en RDC. Dr Roger Kamba, coordonnateur de cette structure, l'a dit hier à Kinshasa en marge de la Journée internationale de la couverture santé universelle, journée célébrée aujourd'hui 12 décembre. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle en RDC, Dr Kamba, appelle toutes les parties prenantes à se mobiliser pour construire le système de la couverture santé universelle. Il le dit au micro de Paul Matendo Mayamba.
La santé est donc un droit très important et le président de la République, quand il parle de l'état de droit, le premier des droits, c'est le droit à la santé. Sans droit à la santé, on n'a pas le droit à l'épanouissement, à l'éducation. On n'a droit à rien quand on est malade. Comme le droit à la santé est un droit primordial, la question c'est est-ce que ce droit doit être monnayé? Est-ce que ce droit doit être lié à une certaine quantité d'argent? Parce que si c'est cela, ceux qui ont plus d'argent ont plus de droits. En ce moment-là, ce n'est plus un droit, c'est un privilège. C'est vrai que nous devons bâtir des systèmes. Comment est-ce qu'on se mobilise tous en faveur de cette couverture santé universelle? Et je crois que pour la mobilisation, le plus important, c'est vraiment la passion. Et nous espérons qu'en cette journée de commémoration, tout le monde puisse se dire « Ok, c'est peut-être le moment qu'on se lève pour bâtir ce système et je demande que cette passion-là naisse et grandisse pour que nous tous, nous puissions répondre à la question très très simple de dire « Quand je suis malade, comment est-ce que je suis pris en charge ?»
Province du Maniema, des audiences publiques se tiennent depuis vendredi à Salamabila, dans le territoire de Kabambare, sur le meurtre des deux motards tués au mois d'octobre par les militaires FARDC. Selon des sources sur place, la première journée a été consacrée à l'identification et audition des prévenus, témoins et renseignants. La population de Salamabila a dit attendre le bon déroulement de ce procès pour que justice soit faite. On écoute à ce sujet Barouani Saïdi Vumba, président de la société civile Force Vive du Maniema. Sous antenne de Salamabila, il résume ici l'audience de vendredi au téléphone de Florence Kizalunga.
Certainement, comme vous venez de le dire, 10 décembre, que le tribunal militaire de garnison a ouvert les audiences publiques à Salamabila pour les cas de meurtre des motards qui ont été sauvagement abattus par les militaires des forces loyalistes à Salamabila. L'audience a été ouverte et que toutes les parties ont été présentes au procès. Après l'ouverture des audiences, l'instruction a commencé, c'est-à-dire l'identification des prévenus, l'audition des témoins renseignants, et puis on a retenu l'affaire pour plaidoirie. S'agissant de l'impression de la communauté de Salamabila, la communauté est en train d'attendre que la justice soit faite. Vous savez que c'est l'œuvre de la société civile qui réclamait auprès des autorités provinciales, nationales, des autorités judiciaires, que ce procès se tienne à Salamabila pour non seulement sanctionner, mais aussi pour donner, c'est aussi un caractère pédagogique, c'est-à-dire pour donner leçon, non seulement pédagogique, mais aussi méthodologique. La population entend voir les décisions de la justice pour rétablir la paix à Salamabila et apprendre les autres que la justice au Congo existe.
Pour rappel, le premier motard avait été tué pour n'avoir pas payé 1000 francs congolais à la barrière érigée par des militaires, tandis que l'autre est mort lors de la manifestation contre la mort de leurs collègues. Conservation des forêts et de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques, les communautés des villages Ikita, Lukanga et Lombe du territoire d'Inongo dans la province du Maindombe ont présenté devant les médias hier à Kinshasa les retombées du projet Red Plus pour la partie exécutée par la société Era Congo du groupe Wildlife Worlds. Après 10 ans d'exécution du projet, ces localités ont bénéficié de la construction et la rénovation des bâtiments scolaires, la fourniture des services de santé, la fourniture des équipements de protection et le soutien aux campagnes de vaccination. Explication avec Billy Van Lutumba.
En plus de l'amélioration du système éducatif et sanitaire, les peuples autochtones ont été initiés à l'intensification agricole et la diversification des produits comme outil pour un développement du cadre de vie, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Basongo, une sexagénaire pygmée, chef de terre, village Ikita, témoigne.
Il m'a amené la conservation et moi j'ai accepté. Depuis que j'ai accepté, accepté, j'ai commencé à récupérer tout ce qui était perdu. Les animaux qui étaient perdus à l'époque, commencent à revenir. D'autres fois, pour avoir du miel, il faut aller abattre des arbres. Mais aujourd'hui, le projet m'a amené des initiatives où, avec le ruche, je peux trouver le miel derrière ma maison. Et aujourd'hui, j'ai une école, j'ai aussi un puits de forage.
Bosenge Ntwele est médecin pour ces localités.
Il a eu cette initiative de construire des centres de santé, faire engager des infirmiers partout, mettre à la disposition de tous ces établissements des produits nécessaires pour que cette population puisse bénéficier des soins. Et tous ces soins-là sont gratuits.
Signalons que Era Congo de Wildlife Works œuvre pour la protection de près de 300 000 hectares de forêt dans le bassin du Congo, en aidant les communautés à améliorer leur cadre de vie et la RDC à atteindre ses ambitions climatiques et de développement durable.
Actualité, Afrique Monde.
La Banque mondiale a annoncé ce week-end une aide humanitaire de 280 millions de dollars à l'Afghanistan, cela via la réaffectation des financements émanant du Fonds spécial pour la reconstruction du pays. L'organisme avait suspendu fin août ses aides à Kaboul après le retour au pouvoir des talibans. Lors d'une fête religieuse en Sicile, l'évêque de Noto, Antonio Stagliano, 62 ans, a affirmé que le Père Noël n'existait pas et il a ajouté que Coca-Cola utilise l'image de son costume rouge pour véhiculer des fausses valeurs saines à des fins publicitaires. Ces propos ont soulevé la colère au point de pousser le diocèse de Noto à présenter des excuses aux petits comme aux grands.
L'invité.
Elle nous vient du Sud Kivu. Plus de 50 femmes associatives et les femmes policières de la police nationale congolaise ont clôturé vendredi à Uvira les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. À cette occasion, la chef du parquet près le tribunal de paix d'Uvira, Christine Kachifu, a sensibilisé les femmes à connaître leurs droits, comment et où les revendiquer afin d'aider les victimes. L'activité a été appuyée par la police de la MONUSCO UNPOL et le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Invitée de ce journal, Madame Christine Kachifu s'entretient avec Fiston Ngoma Mayabala.
Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez clôturé la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles faites aux femmes. Quel est le message que vous avez pu adresser aux femmes d'Ovira?
C'est une journée qui nous a beaucoup attirés, beaucoup interpellés. Et c'est le jour où la femme doit s'élever. La femme doit savoir, nous ne pouvons pas crier violence faite à la femme alors que la femme elle-même dort quelque part. Elle doit s'élever pour lutter. Je y ai interpellé à la femme. Pourquoi lutter? Il faut avoir un objectif. Quel est l'objectif de la femme en luttant contre cette violence-là? Quel est l'objectif que la femme a? Où lutter et comment lutter? Nous ne pouvons pas lutter dans les désordres. Nous ne pouvons pas lutter n'importe où. Il faut avoir un lieu précis pour lutter contre cette violence. Qu'est-ce que j'ai remarqué? La femme est violée partout. Partout, à la maison, dans les lieux scolaires, partout, même dans nos services où nous sommes, la femme est violée. Et maintenant, ce n'est pas à la femme de s'élever n'importe comment pour lutter. Alors, il faut avoir toujours des stratégies et savoir les droits. Vous ne pouvez pas lutter sans connaître ses droits. Quel est le droit de la femme? Qu'est-ce que la femme doit faire pour lutter contre la violence qui lui est faite tous les jours, partout où il se retrouve? Notre message est que la femme doit se réveiller. Réveillons-nous, nous femmes, pour lutter contre la violence qui est faite contre nous à tout moment, dans n'importe quel lieu et dans n'importe quel milieu.
Vous êtes responsable d'une juridiction. Quelles sont les lacunes que vous avez souvent pu constater dans la revendication des droits de la femme par les femmes d'Ovira?
Effectivement, c'est une histoire qui nous interpelle. Pourquoi je veux le dire? Nous avons beaucoup de lacunes. Quand la femme vient rester en justice, mais souvent la femme vient juste pour les intérêts ménagers. Quand ça ne va pas à la maison, ils viennent. Mais il y a d'autres droits que ça. Et lorsque nous, en tant que femmes, nous nous levons pour lutter contre cette violence-là, et à la cité, on dit quoi? Surtout nous qui sommes chefs de juridiction, je suis chef de juridiction, et surtout que je suis encore femme et j'ai les droits, je connais les droits de la femme. Lorsque nous nous levons, ce sont les hommes qui crient à la cité. La maman chef du parquet est là seulement pour arrêter les hommes. Non, nous n'arrêtons pas les hommes pour arrêter. Nous arrêtons parce que l'homme a violé. Parce que nous disons pas la violence seulement faite à la femme, c'est contre le genre. L'homme aussi peut être violé. Et lorsque l'homme est violé et qu'il venait vers nous nous sommes aussi en mesure d'aller contre celui qui a violé les droits faits à l'homme aussi. Parce que c'est le genre. Le genre, il y a la femme et l'homme aussi. Donc, nous avons beaucoup de défis lorsque nous nous levons pour lutter contre leurs droits. Les deux fois, on crie à la cité, nous sommes là pour arrêter. On n'est pas pour arrêter inutilement, mais nous arrêtons dans les droits et nous arrêtons contre celui qui viole les droits de l'autre.
Alors, au regard de toutes ces lacunes que vous avez pu constater au niveau de votre juridiction à l'endroit de la femme, que doivent faire les activistes des droits de l'homme dans le cas de sensibilisation de la femme à connaître ses droits?
D'abord, la sensibilisation, comme elles sont en train de les faire, les femmes sont debout, elles les font. Et maintenant que la femme qui est dans la campagne puisse montrer à la femme qui est violée ses droits d'abord, et qu'est-ce que cette femme-là doit faire pour connaître ses droits et où aller. Parce que ce n'est pas parce qu'elle est violée qu'elle doit aller n'importe où. Elle doit lui montrer où aller et comment aller et revendiquer ses droits qui sont violés et tout ce qu'elle est en train de subir comme préjudice.
Qu'est-ce que vous pouvez placer comme mot par rapport aux femmes militaires de casque bleu, les femmes policières qui travaillent sous les drapeaux des Nations Unies?
En tout cas, ce sont des femmes à féliciter. Personnellement, je les félicite. Une Burkinabé qui a quitté son pays pour venir travailler ici. Ce n'est pas gratuitement. Peut-être nous, qui sommes congolaises, nous sommes en train de le voir comme si elle est juste venue pour avoir de l'argent. Je dis non. Elle a compris qu'elle doit aller servir les femmes qui sont quelque part et que leurs droits sont violés. Ce sont des femmes à féliciter et nous les invitons encore une fois de plus de venir et de continuer toujours à inciter, parce que ce sont eux qui sont en train d'inciter le maman de connaître leurs droits et de lutter contre les violences qui sont faites à leur endroit. Ce sont des femmes qui sont, je les félicite personnellement et je les encourage, je les dis bravo pour tous les travaux qui sont en train de battre.
Madame Christine, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Notre invitée, la chef du parquet près le tribunal de paix d'Uvira, Christine Kachifu, s'entretenait avec Fiston Ngoma. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.